Bonjour Tiphaine, nous partons pour le quatrième volet de notre série sur Ernest Hemingway.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'était un pêcheur, un chasseur, un amateur de corrida. Il a vécu en Europe, à Cuba et aux États-Unis, son pays de naissance. Il buvait beaucoup trop et travaillait énormément. L'écriture était pour lui un combat, hanté qu'il était par le perfectionnisme et la recherche totale de sincérité dans son œuvre. Le portrait de cet homme entier, c'est Gérard de Cortance qui l'a esquissé pour nous lundi dernier, au cours d'une émission introductive et biographique à retrouver en podcast. Mardi, Redouane Aboudaab est revenu, lui, sur la notion de limite dans la personnalité et surtout dans l'œuvre du prix Nobel américain. Tandis qu'hier, Clara Mallier nous a parlé de son écriture à travers deux de ses grands romans, Le soleil se lève aussi, ainsi que Le vieil homme et la mer. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer le cercle des écrivains américains à Paris durant l'entre-deux-guerres auquel il appartenait, pour évoquer aussi leurs conditions d'existence, nous sommes avec Jean Bessières, professeur émérite de littérature comparée à la Sorbonne, auteur d'essais comme celui intitulé « Qu'est-il arrivé aux écrivains français d'Alain Robbe-Grillet à Jonathan Little ?» publié en 2006 aux éditions Labor, ou encore de celui intitulé « Le roman contemporain ou la problématicité du monde » publié aux presses universitaires de France en 2010. Il a également dirigé la thèse de Daniel Gallagher, publiée en livre sous le titre d'Ernest Hemingway à Henry Miller, Mythes et réalités des écrivains américains à Paris 1919-1939, livre à partir duquel nous avons donc largement construit cette émission. Et son premier ouvrage, il était consacré à Francis Scott Fitzgerald, dont Hemingway parle beaucoup dans son livre « Paris est une fête ». Paris est une fête dont voici pour commencer un extrait.
Scott était un homme qui ressemblait alors à un petit garçon avec un visage mi-beau, mi-joli. Il avait des cheveux très blonds et bouclés, un grand front, un regard vif et cordial, et une bouche délicate aux lèvres allongées, typiquement irlandaise, qui, dans un visage de fille, aurait été la bouche d'une beauté. Cette bouche, si troublante pour qui ne connaissait pas Scott, et plus troublante encore pour qui le connaissait. Scott ne cessait de parler. Et comme j'étais embarrassé par ce qu'il disait, il ne tarissait pas d'éloges sur ce que j'écrivais, je me contentais de l'examiner de très près au lieu de l'écouter. Nous professions tous en ce temps-là que les compliments à bout portant peuvent fort bien abattre leur homme. Scott avait commandé du champagne et lui et Don Chaplin et moi avions trinqué, je crois, avec l'un des individus les moins intéressants qui se trouvait là. Scott, je le découvris plus tard, croyait qu'un romancier pouvait trouver une réponse à toutes les questions qui l'intéressaient en les posant directement à ses amis et connaissances. Il m'interrogea donc sans phare. « Ernest, dit-il, ça ne vous fait rien que je vous appelle Ernest, n'est-ce pas ?»« Demandez à Dunk, dis-je. Ne soyez pas stupide, c'est très sérieux. Dites-moi, est-ce que votre femme et vous avez couché ensemble avant d'être mariés ?»« Je ne sais pas. Comment ça vous ne savez pas ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne m'en souviens pas. Mais comment pourriez-vous dire avoir oublié une chose aussi importante ? Je ne sais pas, dis-je. Bizarre, n'est-ce pas ? Mais c'est pire que bizarre, dit Scott. Ne vous conduisez pas comme un angliche. Tâchez d'être sérieux, faites un effort de mémoire. Non, dis-je. C'est sans espoir.
Lecture par Guillaume Gallienne. Bonjour Jean Bessières. C'est la rencontre qui compte le plus finalement, celle avec Scott Fitzgerald pour Hemingway à Paris dans ces années-là.
Je ne suis pas sûr que ce soit ni la rencontre qui compte le plus ni pour Hemingway à Paris dans ces années-là, ni une rencontre essentielle pour Hemingway lui-même et l'état de la création de son œuvre à ce moment-là.
Pourtant, il en parle beaucoup, hein, dans Paris est une fête.
Dans Paris est une fête, absolument. Et je pense qu'il en parle moins par ailleurs dans ses lettres, enfin, dans les documents publiés disponibles de lui. Simplement, je pense qu'il faut avoir en tête qu'à cette époque, dans les années 20, sont passés à Paris, bien évidemment, tous les écrivains américains importants, dont était Fitzgerald, quasiment tous les écrivains débutants qui allaient devenir importants, dont était Hemingway. Et au fond, la rencontre entre évoquée par Hemingway, dans Paris est une fête, entre lui et Scott Fitzgerald, est une rencontre que je dirais qui est présentée au fond doublement. C'est la rencontre d'un jeune écrivain face à son aîné, mais un aîné qui n'était pas finalement tellement plus âgé en réalité.
Mais qui était déjà célèbre.
Et qui était déjà célèbre, lui, établi, était très jeune. Et qui allait publier, au moment où cette rencontre a lieu, qui allait publier le Gatsby le Magnifique, dont, c'est raconté dans ce chapitre, dont Fitzgerald donne alors un exemplaire à Hemingway.
Ce qui prouve leur proximité, et puis alors, le fait que l'un et l'autre se reconnaissent comme de grands écrivains, alors que Hemingway reconnaît Fitzgerald, c'est normal, mais dans l'autre sens aussi, cette séduction
alors,
s'opère.
La séduction joue dans les deux sens, encore que la lettre de Scott Fitzgerald, la lettre de l'évocation de Scott Fitzgerald dans ce chapitre de Paris est une fête est totalement assez équivoque. Mais oui, il y a une séduction réciproque que refuse par un certain côté d'ailleurs Hemingway dans Paris est une fête, enfin, dans ce qu'il rapporte dans Paris est une fête. Mais un des traits du milieu des écrivains américains à Paris à l'époque était la proximité à peu près systématique des aînés et des écrivains plus jeunes ou débutants.
Plusieurs générations qui se croisent et qui se mélangent.
Oui, puisque, par exemple, est cité aussi dans Paris est une fête, Sherwood Anderson, bien évidemment est cité Gertrude Stein, qui était d'une autre génération. Donc c'est un milieu authentique de brassage d'âge, de brassage divers moyens matériels et de divers moyens de fortune.
Gertrude Stein, par exemple, est une personne qui est très riche.
Gertrude Stein est très riche par héritage de son père. Hemingway le décrit lui-même dans Paris est une fête, vit assez chichement et utilise très souvent le mot de pauvreté dans Paris est une fête. Sans compter, alors, quelqu'un qui arrivera un peu plus tard à Paris, c'est Henry Miller, qui lui s'est déclaré totalement pauvre.
Henry Miller.
Ce brassage est authentique et lié, alors, au milieu parisien et à une espèce d'écosystème culturel, anglophone à Paris, qui s'était établi à Paris à la fin de la Première Guerre mondiale, où Paris, à cause du traité de Versailles, devient le point de communication le plus important au monde.
Alors, on va parler de ce Paris de ces années-là, mais je voudrais poursuivre un petit peu sur Hemingway et Fitzgerald. Elle ressemble à quoi, cette amitié entre les deux? Parce qu'il y a, dans Paris est une fête, cette espèce de morceau de bravoure du voyage à Lyon,
que
tous les deux vont faire.
Ce voyage à Lyon, où l'un prend un train, l'autre en prend un autre, le retour de Lyon à Paris en voiture, dans la voiture de Fitzgerald.
Parce qu'en fait, ils sont partis rechercher la petite Renault que Zelda et Scott ont laissée à Lyon. Elle était tombée en panne.
Une voiture dont le toit a été enlevé.
Voilà, parce que Zelda pensait que c'était mieux.
Absolument. Retour à Paris sous la pluie, donc sans imperméable, note. Donc,
alors, où on boit beaucoup aussi sur le trajet.
Je pense que personnellement, je trouve l'évocation de Fitzgerald dans Paris est une fête, comme je viens de vous le dire, un peu équivoque, dans la mesure, je vais formuler les choses de manière suivante, il y a un lien mutuel de séduction et de reconnaissance. Tous ces écrivains étaient entre autres à Paris pour se reconnaître mutuellement, parce qu'ils tenaient ou supposaient qu'ils n'étaient pas reconnus aux États-Unis, y compris Fitzgerald, qui n'a cessé, au fond, de se plaindre à cette époque de ses propres échecs, ce qui était un peu paradoxal.
Paris, c'est pas seulement un lieu d'attraction, c'est aussi un anti-lieu par rapport aux États-Unis.
Absolument. Et peut-être plus qu'un lieu d'attraction, c'est un lieu Oui, de contraste. Refuge. Je veux dire de contraste et d'opposition aux États-Unis, culture puritaine, culture de l'argent, culture inesthétique, inartistique, etc. Étant entendu que c'est cette génération-là, hein, aussi bien du point de vue de la littérature que du point de vue des arts, et commence à établir la prédominance de New York et des États-Unis dans le monde littéraire et artistique.
Et comment vous expliquez ce basculement alors ?
Le basculement de
Paris vers New York. Est-ce que c'est le départ justement d'un certain nombre d'écrivains américains de Paris ?
Il y a deux. Sur ce point, il y a d'abord une thèse d'économiste qui est une culture se développe fortement lorsqu'il y a un fort développement économique. C'est évident pour les États-Unis après la Première Guerre mondiale, les États-Unis qui deviennent effectivement la puissance déjà dominante à ce moment-là. Alors l'autre raison est donc, je veux dire, culturelle, donc morale, culturelle, économique. Alors le retour lui-même, d'abord il y a quelque chose de très simple, c'est que la crise économique de 1929 entraîne que tous ces gens qui étaient à Paris rentrent aux États-Unis. Il y a quelques écrivains qui restent, comme Henry Miller, mais qui quittera Paris au milieu des années 30, parce que enfin, la situation politique globale avec l'Allemagne devient mauvaise. Donc le retour est dû à la crise économique de 1929, mais il est dû aussi, et je pense que c'est très bien, c'est aussi, on revient à Fitzgerald, c'est évoqué indirectement à travers le dialogue qu'établit Hemingway avec Fitzgerald. Paris était pour les jeunes écrivains un lieu de formation. Alors, littéraire, personnel,
il fallait spatial, y passer, mais
spatial,
on ne s'y établissait pas forcément.
Voilà, hein, spatial. Alors,
ou en tout cas pas forcément
alors, très
longtemps.
Peu d'écrivains y sont restés véritablement longtemps. Parce que lorsqu'on prend de manière un peu précise ce que les biographes d'Hemingway ont fait avec une abondance de détails et de commentaires un peu étouffantes, au fond, Hemingway à Paris n'y se rend pas de manière continue. Malgré l'impression qu'on a en lisant Paris est une fête, il est journaliste, il va, il vient. Donc ses séjours à Paris, si on prend une chronologie très stricte, sont en réalité discontinus. Alors, on peut dire la même chose de Fitzgerald. Fitzgerald ne vient à Paris véritablement qu'en visiteur. Il va plutôt d'ailleurs sur la Côte d'Azur ensuite. C'était la plupart, le seul à rester assez longtemps parmi les écrivains inconnus a été Henry Miller.
Un petit peu comme si le voyage à Paris, le fait de dire aux États-Unis qu'on habitait à Paris, vous légitimez comme grand écrivain. Non,
je pense que la légitimation commençait à Paris. Le milieu des écrivains anglophones, parce qu'il y avait aussi donc des écrivains britanniques, le milieu des écrivains anglophones à Paris était un milieu de légitimation mutuelle, ne serait-ce que par l'ensemble très très important de revues qui sont soit créées, soit éditées à Paris, de revues d'avant-garde.
Alors, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur Scott Fitzgerald et Hemingway avec une lettre qui date du 7 septembre 1926. C'est une lettre d'Hemingway à Fitzgerald alors qu'il se sépare de sa femme.
Adlai et moi sommes toujours séparés. Je pense aller à vélo à Marseille en octobre et vivre un mois environ à Marseille pour travailler. Irai te voir à vélo quand tu auras terminé ton livre. Notre vie est tout entière devenue un enfer, ce qui semble être l'unique chose que l'on puisse attendre d'une bonne vie. Inutile de dire qu'Adlai a été parfaite et qu'à tous les points de vue, tout a été entièrement de ma faute. C'est là la vérité et non un geste poli. Néanmoins, maintenant que j'étais en enfer depuis les environs de Noël dernier, avec plein d'insomnie pour éclairer la route, ce qui fait que j'ai pu étudier le terrain, je m'y suis en quelque sorte habitué et m'y trouve même plutôt bien, et prendrai probablement plaisir à le faire visiter à des gens. Comme c'est nous qui nous fabriquons notre enfer, nous devrions certainement nous y plaire. J'ai fait une coupe dans le soleil pour commencer avec Cohn, couper toute la première partie, pratiquer un certain nombre de coupes mineures et réécrit et resserré tout un tas de passages. Avec les coupes, ça donnait en épreuve un bon livre. Dieu sait, si je veux les écrire sacrément mieux, mais il m'a paru bien bouger et être plutôt intéressant et solide. J'espère très fort que tu l'aimeras. Peut-être pas, peut-être oui. Et une chic idée pour un nouveau roman. Je l'intitule « L'exposition internationale ». Ce titre devrait te plaire. Mes amitiés à Zelda, et dis-lui combien nous avons regretté de ne pas vous voir quand nous sommes venus vous dire au revoir. Je n'ai pas bu, n'ai pas mis les pieds dans un bar, n'ai été ni au Dingo, ni au Dôme, ni au Select. N'ai vu personne, ne vais voir personne. Suis en train de tenter l'expérience inhabituelle d'un écrivain écrivant.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, il y a beaucoup de choses à noter, hein, je pense, Jean Bessière, dans cette lettre. Bah, alors, d'abord, qu'est-ce que vous en retenez ?
Ben, j'en retiens le caractère de sincérité biographique qui a été constant chez Hemingway à propos d'ailleurs de sa première femme. Quelque chose qui n'a cessé de répéter. La séparation avec sa première femme était de ses responsabilités. La seconde chose est. Donc, le soleil se lève aussi, le premier grand roman de Hemingway, est achevé. Et c'est une promesse, au fond, d'achèvement et d'écriture qu'Hemingway avait fait à Fitzgerald à Paris. Avec l'idée que le soleil se lève aussi, non pas serait l'équivalent de Gatsby Magnifique, puisque les deux romans sont absolument... étrangers
l'un à l'autre. C'est des portraits de génération, voilà, un petit peu aussi, voilà.
Mais,
dans les deux cas.
Mais, après tout, si le soleil se lève aussi, pouvait, effectivement, pour une génération, compter comme avait déjà compté Gatsby le Magnifique, ce serait, pour reprendre le titre de Fitzgerald, magnifique. Alors, ce qui est aussi frappant dans la lettre, c'est effectivement le ton d'égalité entre le. Que suppose cette lettre au regard de Fitzgerald, et le ton de proximité. Donc, il y a à la fois une proximité, un caractère aussi d'une relative intimité amicale, et ce rapport littéraire qui reste implicitement le rapport d'un écrivain plus jeune à quelqu'un qui, à l'époque, est déjà un modèle.
Et qui a une aura. Ah,
bien sûr.
Mais ils sont tous les deux quand même très différents, parce que d'un côté, on a le monde des Rolls, le monde de l'argent, oui, le monde, oui, de la fête, oui, avec Fitzgerald, et, oui, et de l'autre côté, c'est la chasse, la pêche.
Mais enfin, oui, bon, mais ce sont deux Amériques, si vous voulez. Deux Amériques réelles qui ont existé à l'époque où vivaient chacun de ces écrivains. Hemingway, l'homme de la banlieue de Chicago, auquel son père apprend à aller à la pêche, mais très jeune. Je crois que les biographes de Hemingway citent qu'Hemingway a eu sa première canne à pêche à 3 ans, quelque chose comme ça. Fitzgerald, qui est aussi un provincial des plaines du Nord-Ouest, lui a une autre destinée. Il part à Princeton, une des très grandes universités américaines, université pour riches. Et comme le dit Fitzgerald lui-même, c'est là qu'il a découvert la richesse, les super riches. Et comme il ajoutera, les riches n'ont jamais la même vie que nous, parce qu'ils ne se considéraient pas comme riches, n'est-ce pas ?
Alors, une amitié, donc, comme vous le dites, très forte, et puis en même temps des divergences qu'on ressent, ou une espèce d'ironie à la lecture de Paris est une fête. Je voudrais vous lire un extrait de Paris est une fête où il est question de Fitzgerald. Scott Fitzgerald nous avait invités à déjeuner avec sa femme et sa petite fille dans l'appartement meublé qu'ils avaient loué 14 rue de Tilsit. Je ne me rappelle pas grand-chose de l'appartement, sauf qu'il était sombre et sans air, et qu'on n'y voyait rien qui semblât appartenir au Fitzgerald, si ce n'était les premiers livres de Scott, reliés en cuir bleu clair avec des titres dorés. Scott nous montra aussi un grand livre de contes où se trouvaient inscrits tous les textes qu'il avait publiés année après année, avec les prix qui leur avaient été décernés, et les sommes qu'il avait touchées pour chaque adaptation cinématographique, et ses droits d'auteur pour chaque édition. Zelda avait une terrible gueule de bois. Tous deux étaient allés à Montmartre la nuit précédente et ils s'étaient disputés parce que Scott ne voulait pas s'enivrer. Il avait décidé, me dit-il, de travailler dur et de ne plus boire, et Zelda le traitait comme un trouble-fête et un rabat-joie. Elle le qualifia de tel et il protesta et elle dit « Non, je n'ai pas dit ça, ce n'est pas vrai, Scott ». Puis, plus tard, elle sembla se rappeler quelque chose et rit joyeusement. Ce jour-là, Zelda n'était pas en beauté. Sa magnifique chevelure d'un blond foncé avait été abîmée par une mauvaise permanente à Lyon lorsque la pluie leur avait fait abandonner leur voiture et ses yeux étaient fatigués et ses traits tirés. Donc tout est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que on se chamaille, on s'aime beaucoup et en même temps, il faut rappeler que c'est un livre qui a été écrit bien des années plus tard, hein, à la fin de la vie Fitzgerald.
Absolument. Alors, finalement, le Paris est une fête n'est pas, si j'ose dire, un reportage en direct par Hemingway lui-même.
Même s'il y a ce côté un petit peu de ses séjours, reportage people de haute volée.
Absolument. Alors, ce qui
sur
est
un couple quand même célèbre.
L'un et l'autre, lorsque Hemingway écrit Paris est une fête, aussi bien lui que Fitzgerald, Fitzgerald est mort à ce moment-là depuis longtemps, mais l'un et l'autre sont considérés comme de très grands écrivains, même si à cette époque-là, ils ne sont pas souvent rapprochés l'un de l'autre. Mais personnellement, je lirai cette évocation de Fitzgerald par Hemingway dans Paris est une fête, comme ce que j'ai parlé, une allégorisation à double sens, une espèce d'image allégorisée de Fitzgerald, grand écrivain, alors minutieusement riche et minutieusement écrivain, puisque il montre le compte de ses œuvres et de ses prix. Et par ailleurs, la description de l'appartement est intéressante, puisqu'au fond, Hemingway vit à ce moment-là dans un petit appartement rue de la Contrescarpe, etc. Probablement un peu sombre, etc.
Qu'il aime bien décrire, justement. Ouais,
qu'il aime bien décrire. Donc, il y a l'obscurité d'appartement du quartier riche et l'obscurité bohème du quartier latin. Donc, il y a, dans cette allégorisation, se construisent toute une série de contrastes qui sont élaborés, effectivement, au moment d'écriture de Paris est une fête.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Dream a little dream of me par Ella Fitzgerald et Louis Armstrong dans la compagnie des auteurs où nous sommes avec Jean Bessières pour parler du Paris de Hemingway durant l'entre-deux-guerres. Alors, Hemingway était-il vraiment pauvre? C'est la question qu'a posé l'un de vos doctorants, Daniel Gallagher, parce que il est allé chercher très précisément pour savoir si cette histoire de la bohème parisienne des Américains c'était vrai ou c'était pas vrai.
Alors, je suis personnellement incapable d'apporter une réponse définitive à la question, mais il y a quand même plusieurs éléments qui vont permettre de distinguer, je dirais, entre ce que j'appellerais un imaginaire de la bohème, où Et sur ce point, les écrivains américains de l'époque, en particulier jeunes, avaient parfaitement conscience de se rattacher à une tradition de bohème littéraire européenne qui était, et eux-mêmes, souvent étaient passés par New York et par Greenwich Village.
Mais donc qui continuera aussi, même voilà, après-guerre d'ailleurs.
Absolument.
Voilà, donc, ils avaient des écrivains comme Truman Capote va venir aussi ça, en Italie, ça, en Espagne.
Ils avaient. Je ne dis pas que c'est un jeu de rôle, mais c'est certain. Il y a le choix d'un type d'attitude qui était donc implicitement une attitude littéraire. Alors, l'autre question, elle est totalement objective, c'est celle des conditions de vie de ces écrivains, d'Hemingway en particulier, à Paris dans les années 20. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait à l'époque beaucoup d'Américains à Paris. Puisque c'était la Première Guerre mondiale,
il y avait même une infrastructure américaine. Il y avait une infrastructure.
Par exemple, quelque chose que connaissent les Parisiens aujourd'hui, il y a une librairie américaine à Paris qui a été fondée dans ces années-là. Il y avait même un distributeur de lait.
Du lait américain.
Alors peut-être pas de lait américain, mais un distributeur de lait pour les Américains à Paris, etc. Il y avait les journaux américains, il y avait des revues. Donc il y a tout. Un écosystème qui existe, qui a une valeur culturelle et qui est incontestablement un soutien économique pour les écrivains qui sont là et qui n'ont pas de revenus propres. Hein, ce qui était bon, ils sont journalistes. Alors il y a les journalistes devenus illustres comme Hemingway, mais il y en a d'autres qui étaient là. Par exemple, il y avait quelqu'un que cite Hemingway dans Paris est une fête, qui faisait les comptes rendus hippiques pendant des années pour les éditions de l'édition parisienne de l'Herald Tribune.
Mais alors, donc on dit beaucoup, oui, les Américains venaient, bon, parce que la capitale française était une capitale aussi de la culture, mais surtout à cause du taux de change. Or, Daniel Gallagher montre que ça n'est pas finalement tellement vrai, et il a exhumé un certain nombre d'articles où on explique que la bohème parisienne, elle n'existe plus, exactement comme on le dit aujourd'hui, à cause de la hausse des prix, et que finalement, même durant les années 30, on ne peut plus, disent ces articles, vivre comme on le faisait dans des chambres de bonne dans le quartier latin.
Oui. Alors, effectivement, parce que Daniel Gallagher a en particulier étudié cette question du point de vue d'Henri Miller. Eh bien, comme le sujet de Miller à Paris est postérieur à celui d'Hemingway, la démonstration de Daniel Gallagher est d'autant plus forte. Mais je pense que les conditions économiques n'étaient pas nécessairement aussi favorables donc que ce que dit la légende ou que ce que les écrivains ont dit. Je pense que c'était ce qui importait. Ce n'est pas même à proprement parler les rapports avec les écrivains français qui n'ont pas été finalement aussi fréquents que ce qu'on peut croire.
Non, parce qu'ils vivaient vraiment entre eux, cette communauté-là d'Américains à Paris.
C'est un milieu littéraire anglophone qui trouve à Paris, je vais dire, une liberté de réunion. Non pas que les réunions étaient interdites à Londres ou à New York, mais qui trouvent une liberté spontanée de réunion et due aussi, je pense, à la géographie de parisienne. J'apprendrai rien à personne en disant que Paris est une ville fortement peu étendue et fortement centralisée. Donc, écoutez, quand Hemingway décrit ses promenades dans Paris, au fond, ça ne fait pas un périmètre de promenade très étendu.
Mais donc, il ne rencontre pas tellement d'écrivains français.
Il ne faut pas être totalement affirmatif, mais mon opinion personnelle sur la question est que les liens directs entre les écrivains américains et les écrivains français de l'époque ont été infiniment moins forts que ce qu'on peut penser de l'extérieur pour plusieurs raisons. Un grand nombre d'entre eux ne parlaient pas français. Parmi les écrivains de l'époque qui parlaient à l'extérieur en français, il y avait Dos Passos, par exemple. Hein. Miller, arrivé à Paris, ne savait pas le français. Donc, Hemingway, la connaissance du français d'Hemingway était probablement totalement
hypothétique. On ne peut pas dire qu'ils ont été influencés par la littérature française de l'époque.
Ce serait une longue histoire. Je ne pense pas qu'Hemingway ait été beaucoup influencé par la littérature française de l'époque, ni même un peu antérieure. L'influence de la littérature française sur ces gens, il y a une influence, si on prenait les poètes, hein, parce qu'il y avait aussi des poètes dans ces groupes, il y a une influence de la poésie française, oui, de la poésie française de la fin du 19e siècle, de la poésie française années 10, années 20.
Pas tellement.
Pas directement, mais à travers les petites revues qui se créaient, qui publiaient les poètes français.
Alors, Paris est une fête, c'est aussi une sorte de reportage, on l'a dit. Enfin, c'est justement la question, est-ce que c'est un reportage ou est-ce que ça n'en est pas un, étant donné, encore une fois, que ça a été écrit bien des années après. Hein, vous rappelez que c'est un livre qui est un livre inachevé. Hein,
oui,
c'est un livre que Hemingway n'a pas eu le temps, si l'on peut dire, de terminer avant sa mort. Vous l'avez relu d'ailleurs récemment, oui. Et vous avez trouvé que c'était un livre finalement sur Paris assez pessimiste.
Alors, j'ai eu dans le temps, j'ai énormément travaillé sur ce qu'on appelle la génération perdue de ces écrivains à la suite de la formule de Gertrude Stein, qui n'était pas d'elle d'ailleurs. Bon, mais alors, ce qui est l'expérience et l'image de Paris que donne Hemingway en particulier, mais elle est semblable à celle des autres écrivains de l'époque, on peut la tenir d'abord pour une image conventionnelle. C'est incontestable et largement répété d'une œuvre à l'autre. On peut la tenir aussi pour une expérience, cette image comme relevant d'une expérience personnelle. Après tout, ce que raconte Hemingway sur ses parcours parisiens est authentique. Mais ce qui m'a le plus frappé, qui ne m'avait jamais autant frappé en lisant auparavant, dans les années passées, le Paris est une fête, c'est il y a une sensibilité à la ville qui n'est pas une sensibilité à ses monuments, qui est une sensibilité, je dirais même pas à sa vie quotidienne.
Les Parisiens, par exemple, ne sont pas très présents dans ce livre.
Oui, mais justement, mais qui est une sensibilité à ses objets et à des personnages français, des Français, des Parisiens, eux-mêmes allégorisés, mais qui ont une valeur ethnologique. Évidemment, on peut opposer le garçon de café éternel, la coupole éternelle, en disant c'est totalement conventionnel, bien sûr, aux évocations plus précises. Dans Paris est une fête, hein, la rue de la Contrescarpe, la concierge de l'immeuble des Hemingway, etc. Ou des scènes qui sont inimaginables pour nous aujourd'hui, la vente directe de lait de chèvre dans Paris, enfin bon, une espèce d'agriculture interne à la ville.
Mais donc pour vous, c'est un reportage aussi alors ?
Alors, c'est à la fois, on retrouve les Hemingway journalistes, oui bien sûr, hein, apte à saisir le fait, le point saillant. Mais je pense que ça va plus loin, je pense que Hemingway trouve, et les autres écrivains aussi, trouvent dans Paris ce que j'appellerais une culture, les objets parisiens sont les objets d'une culture, non pas au sens du patrimoine, mais au sens de la vie quotidienne. Et c'est ce qu'il perçoit d'abord, c'est ce qu'il sent finalement, alors plutôt que d'évoquer la foule parisienne, etc.
Jean Bessière, on va poursuivre cette conversation avec vous sur les Américains à Paris dans l'entre-deux-guerres et ce mythe de la bohème. Mais pour l'heure, c'est le moment du regard sur Hemingway d'Aliette Armel.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Aliette Armel, écrivain, essayiste, critique littéraire, bien connu des auditeurs de La Compagnie. Bonjour à vous Aliette.
Bonjour Mathieu.
Et vous nous proposez aujourd'hui une méditation subjective sur l'un de vos romans préférés de Hemingway.
Il s'appelle Santiago. J'ai fait sa connaissance dès mon enfance. Il se trouvait sur le port de la Havane et allait tenter une nouvelle fois de conjurer la malchance. 84 jours sans attraper le moindre poisson. Il repartait seul. Car l'enfant qui le respectait comme un maître, mais aussi l'aimait et le protégeait comme un grand-père, cet enfant, Marjolin, devait obéir à ses parents, qui lui interdisaient de continuer à embarquer avec le vieil homme malchanceux. Santiago partait donc seul, affronter la haute mer sur une simple barque avec deux rames, une voile rapiécée, un harpon et un rouleau de ligne. Je le suivais ainsi dans un livre réputé pour enfants, publié dans une collection jeunesse, faisant partie des lectures recommandées ou obligatoires à l'école, je ne sais plus bien. Et pourtant ce texte, Le vieil homme et la mère, ne ressemblait à rien d'autre de ce qu'on nous incitait à lire d'habitude. Et Santiago, à aucun des personnages qui nous avaient jusqu'alors été présentés. Il était confronté à la misère, à la vieillesse, à la faim, à la solitude. Et pourtant, auprès de lui, nous apprenions la signification du mot « dignité ». Il ne laissait échapper aucune plainte, ni aucune manifestation d'un orgueil crispé sur ses gloires passées. Oui, il avait été autrefois un des hommes les plus forts de la Havane, invaincu à l'épreuve du bras de fer, et maintenant, il devait accepter de l'aide et dire merci lorsque Marjolin lui apportait de quoi dîner et les sardines qui lui serviraient d'appât. Santiago était trop simple, insistait Hemingway, pour s'émerveiller de cette humilité conquise, mais il savait qu'il l'avait conquise et savait qu'elle n'était en rien honteuse, qu'elle ne rabaissait rien à la vraie fierté. Il était assez humble pour savoir ce qu'il ne pouvait plus faire, mais assez fier pour s'embarquer au-delà de toute limite à la poursuite de son rêve de toujours, le poisson dont la taille, l'intelligence et la force seraient enfin à la mesure de son combat.
Et ça, enfant, vous ne l'avez pas compris, mais vous vous souvenez d'être restée stupéfaite devant cet homme qui ne ressemblait à aucun de ceux que précisément on vous apprenait à admirer.
Oui, parce que déjà à l'époque, on nous apprenait à admirer les héros des guerres. On n'avait pas Facebook, mais c'était les héros des guerres, les vainqueurs des événements sportifs, les célébrités. Et lui, Santiago, il n'accumulait aucune recherche. Il ne cherchait à gravir aucune marche dans l'échelle sociale. Ses mains étaient déformées par tant d'années passées à tirer sur des bouts et à forcer sur des harpons. Et pourtant, il persistait à accomplir dans la douleur et en puisant dans toutes ses réserves ce qu'il savait être son destin, sans autre certitude que son ancrage dans le monde où il vivait, tel qu'il était, avec l'exigence d'aller jusqu'au bout de tout, de ses forces, de sa connaissance de la mer et de ceux qui la peuplent, mais aussi de ses rêves. L'homme n'est pas fait pour être vaincu, affirmait-il. L'homme peut être détruit, mais pas vaincu. Et il avait raison. Lorsqu'il rentrait au port après un combat de plusieurs jours avec les courants et les requins, après avoir réussi à tuer un poisson de légende, mais dont il ne restait qu'une arête de 6 mètres du nez à la queue, personne ne se moquait, personne ne l'adulait, même si son retour en vie était en soi un véritable exploit. Mais on lui accordait plus, on le respectait. Et l'enfant Marjolin devenait soudain assez fort pour dire non à ses parents et suivre le maître qu'il s'était choisi. Enfant, j'ai donc été dérouté par cette lecture. Mais au-delà de cette plongée dans l'univers de la mer et de la pêche que j'aimais déjà tant, j'ai gardé cette image de la dignité du vieil homme fier et humble à la fois, couché sur un lit de vieux journaux, qui tentait de reprendre des forces pour retourner sur l'eau, accompagné par Marjolin, qui savait déjà qu'il était plus important d'aller au bout de ses vraies passions que d'accumuler des fortunes. C'est de tout cela que depuis 60 ans maintenant, Santiago est pour moi demeuré le nom.
Le regard d'Aliette Armel, merci beaucoup, à très bientôt.
I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds, brilliant, and brilliant now.
Et nous parlons d'Ernest Hemingway depuis lundi dans la compagnie des auteurs. Le prix Nobel 1954, dont l'œuvre est très américaine, bien qu'il ait lui-même rejeté son pays, et qu'il se soit installé de longues années à l'étranger, dont quelques-unes décisives à Paris au moment des années folles. C'est de cela dont nous parlons aujourd'hui avec Jean Bessière. Nous parlons également d'une autre rencontre fondamentale, outre celle avec Fitzgerald, c'est celle avec Gertrude Stein.
Je me rappelle très bien l'impression que me fit Hemingway ce premier jour. Il était alors un jeune homme d'une beauté extraordinaire. Il avait 23 ans. Il avait un aspect étranger, avec des yeux qui rayonnaient d'un intérêt passionné plutôt qu'il n'était passionnément intéressant. Il s'assit en face de Gertrude Stein. Il l'écouta. Il la regarda. Ils se mirent alors à parler ensemble. Et par la suite, ils continuèrent, souvent, beaucoup. Il lui demanda de venir passer une soirée chez lui et d'y regarder ses manuscrits. Hemingway avait alors, comme il l'a encore, un instinct très sûr pour trouver des appartements dans des endroits étranges et agréables, et de bonnes femmes de ménage, ainsi que de la bonne cuisine. Son premier appartement était tout contre la place du Tertre. Nous y passâmes une soirée, et Gertrude Stein lut tout ce qu'il avait écrit jusqu'à cette date. Il avait commencé un roman, exactement tel qu'un jeune homme de son âge et dans ses conditions devait en commencer un, et il avait écrit de petits poèmes. Gertrude Stein trouva les poèmes assez bons, directs et kiplingesques, mais elle n'approuva pas le roman. Il y a dedans beaucoup de descriptions, dit-elle, et des descriptions pas très bonnes. Recommencez et mettez-y toute votre application.
Extrait de l'autobiographie d'Alice Toklas, Alice Toklas qui était la compagnonne de Gertrude Stein. Gertrude Stein avec qui donc la relation qu'elle entretient avec Hemingway est passionnante. Ça commence par une amitié, ça commence par des promenades, des conversations, sans doute aussi une grande admiration de la part d'Hemingway pour cette grande américaine qui tient salon. En quoi ça compte alors, Jean Bessières ?
Gertrude Stein était évidemment une grande aînée pour ses écrivains, parce que Hemingway est né en 1899, donc en 1925 il a 26 ans. Bon. Donc c'était une grande aînée installée à Paris au début du siècle. Il y a donc l'antécédence de l'âge, l'antécédence de l'installation.
Un charisme aussi.
Un charisme et une connaissance alors du milieu artistique de l'époque que n'avaient pas les jeunes écrivains qui arrivaient. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, alors, la chose totalement curieuse est qu'à cette époque-là, Gertrude Stein avait au total peu publié, d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, elle publiait au total peu. L'œuvre de Gertrude Stein qu'on connaît aujourd'hui est une œuvre essentiellement posthume. Elle était, au fond, son écrivain peu connu, peu établi, importante donc parce qu'elle connaissait le milieu de l'art et importante parce qu'elle était riche et qu'elle pouvait donc acheter de l'art.
Elle achetait de l'art, mais alors est-ce qu'elle aidait aussi Hemingway à
Hemingway le dit un peu, si je me souviens bien, dans Paris est une fête, mais ce qui est sûr, c'est que son salon était le lieu de rencontre de ses écrivains expatriés à Paris. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'elle a cristallisé. Ou permet de se cristalliser des relations entre ses écrivains et qu'elle était comme une sorte de juge de paix littéraire.
Comme on l'a entendu. Hein,
oui, mais alors, était-elle un juge de paix littéraire effectif et efficace ? A posteriori, on peut en douter, mais c'était un point de repère. Alors, à défaut qu'on puisse parler à son propos, bien évidemment, de figure paternelle, c'était à coup sûr une figure maternelle qui pouvait être acceptée ou refusée, suivant l'humeur du moment, ou voilà.
Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que Gertrude Stein, c'est vraiment la représentante de l'avant-garde. Avant-garde parce que, en peinture, elle a un œil extraordinaire, qu'elle repère tout de suite Picasso, entre autres. Et puis, l'avant-garde littéraire aussi, A Rose is a Rose.
Oui, bien sûr.
Alors,
oui.
Est-ce que Hemingway a été perméable à cette avant-garde parce que dans son écriture, on ne ressent pas tellement Gertrude Stein, par exemple.
Alors, je ne pense pas qu'Hemingway ait été très perméable à une avant-garde de ce type. Ce serait un long débat que de distinguer chez les écrivains américains ceux qui ont été réceptifs à ce type d'avant-garde. Et ce serait plutôt des écrivains qui commencent à écrire dans les années 30. Hemingway, non, pas nécessairement, mais il est cependant, avec Gertrude Stein, face à un problème, au fond, littéraire et esthétique intéressant, et dont il parle souvent, à la fois pour Edgar Schoen, à propos d'Ezra Pound, le poète aussi, et qui est la question, au fond, du mot juste, du mot exact pour dire un objet. Et ça, c'est une leçon qu'il a pu retenir d'Edgar Schoen, qui, après tout, commence sa carrière littéraire en écrivant un livre qui est un recueil, en réalité, de trois récits, Mélancta, à caractère réaliste et inspiré de Flaubert.
Il n'y a qu'une seule chose à faire quand on écrit un roman, c'est d'aller jusqu'au bout de ce bon Dieu de truc. Je voudrais que, d'une manière quelconque, ton existence au point de vue financier dépende de ce roman ou d'autres romans, plutôt que de tes sacrées histoires pour le poste, parce que c'est là une chose qui te pousse et te procure un débouché et aussi une excuse. Ces satanées histoires. Oh merde, tu as plus de matériaux que n'importe qui, et tu t'inquiètes plus que n'importe qui. Et au nom du ciel, contente-toi de continuer et d'aller jusqu'au bout avec maintenant. Et je t'en prie, n'écris rien d'autre tant que ton livre n'est pas terminé. Il va être sacrément bon. On ne majore jamais les tarifs d'une vieille putain. Il se peut qu'elle connaisse 850 positions. On diminue tout de même ses prix. Ainsi, ou bien tu n'es ni vieux, ni une putain, ni les deux. Tes histoires ne sont pas de la prostitution, elles sont juste une erreur d'appréciation. Tu pourrais avoir et gagner assez pour vivre en écrivant des romans, sacré idiot. Continue d'écrire ton roman.
Une lettre à Fitzgerald, hein, encore, qui date de 1929. Le travail. C'est ça qui compte, hein, finalement, pour ces deux grands écrivains, et puis plus généralement pour toute cette espèce de milieu littéraire agrégé donc autour de Gertrude Stein et aussi de Sylvia Beach. Hein, c'est l'autre salon important à ce moment-là.
Sylvia Beach et sa librairie que Hemingway cite souvent dans Paris est une fête, qui était aussi, alors, qui était un lieu d'achat, de prêt de livres en anglais, et qui est aussi un lieu de rencontre, plus ouvert évidemment que ne l'était le salon de Gertrude Stein. Et c'était, je pense, d'une manière importante, un des principaux lieux d'introduction de la littérature américaine récente à Paris et en Europe. Hein. C'était un point d'échange essentiel. Il est évident que aussi bien Fitzgerald qu'Hemingway ont une authentique, chacun d'entre eux a une authentique vocation d'écrivain. Et au fond, ce qu'on vient d'entendre ne fait que le confirmer. Fitzgerald a toujours été tenté donc d'écrire des récits plutôt que des romans pour arriver à gagner sa vie. Les revues payaient les nouvelles. Hemingway, au fond, a été un petit peu soumis au même type de division de partage en étant de plus journaliste. L'écriture était maintenir un temps d'écriture était une lutte authentique.
Je voudrais qu'on consacre quelques minutes encore à revenir sur cette idée du mythe de ces années-là pour les Américains. Je pense à ce film, peut-être l'avez-vous vu, de Woody Allen, Midnight in Paris.
Oui.
Qui est un film qui a été beaucoup critiqué parce que ce serait un film fait de clichés, un film à base de clichés. Mais justement, c'est peut-être ça qu'a voulu montrer Woody Allen, c'est que cette période-là, elle est devenue un cliché littéraire. On y voit justement Hemingway, Picasso, Stein, et qui remonte dans le temps. Donc il y a des remontées successives dans le temps, depuis le temps présent jusqu'à cet entre-deux-guerres, puis ensuite encore à l'époque de Montmartre, dans la deuxième partie du 19e siècle. Donc on voit bien qu'on est là dans la création de légendes et de manière à la fois consciente et en même temps très très forte. C'est toute une partie de l'imaginaire de l'Amérique par rapport à l'Europe se joue finalement à ce moment-là et dans cet endroit-là qui est Paris. Montparnasse.
Oui. Alors, le film de Woody Allen est un très joli film, alors que je tiens personnellement pour authentique, dans la mesure où effectivement, où le mythe, la légende de Paris, ils sont dits authentiquement, au fond, selon ce mythe, selon cette légende. Alors, et pour aller dans ce sens-là, au fond, au moment où Hemingway est en train de composer Paris est une fête, le nombre de mémoires, d'autobiographies, de gens, d'écrivains plus ou moins connus, plus ou moins secondaires, qui ont séjourné à Paris et qui se mettent à raconter leurs années parisiennes, c'est innombrable. C'est innombrable. Et alors, il y a incontestablement un mythe de Paris qui est dû à l'histoire, un mythe de Paris qui est dû alors à l'après-guerre, à l'après-première guerre mondiale, et un mythe de Paris qui est dû alors, je pense, à ce que j'appellerais une allégorisation voulue, choisie, de la part d'un grand nombre des écrivains eux-mêmes. Et Paris est une fête participe de cela. Alors, les tons de tous ces ouvrages diffèrent évidemment suivant les auteurs, mais l'idée qu'on a été dans un lieu où il fallait être, oui, en fréquentant ceux qui devaient être fréquentés, me semble incontestable.
C'est là où Daniel Gallagher apporte quelque chose d'important dans la déconstruction précisément du rapport à l'argent, aux conditions de vie. Alors, parce que finalement, ce que ça dit, peut-être, c'est ce qui comptait, c'était la promotion d'un certain art de vivre, et que si ces écrivains ont menti en se décrivant comme des artistes pauvres qui crevaient la faim, ils ont quand même fait quelque chose d'un peu performatif, c'est-à-dire ils ont montré une espèce de voie pour échapper à l'obsession de l'argent, à la tyrannie de l'argent.
Alors, si on se reporte à ce que disaient ces écrivains dans les années 20 ou 30, oui, c'est un acte, alors je ne vais pas dire anti-américain parce qu'il ne faut pas, être outrancier, mais c'est un acte de dissidence morale, esthétique, personnelle. C'est incontestable et qui, bon, grâce auquel le contraste parisien joue à plein. Je pense que cette légende de Paris, on peut la déconstruire, mais alors le paradoxe, c'est que Paris est une fête offre les moyens de cette déconstruction. L'épisode de où Gartenstein dit à Hemingway, vous êtes une génération perdue. Gartenstein rappelle que c'est l'employé.
Oui, on en a déjà dit un mot. Je voudrais qu'on termine parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous avez écrit votre thèse d'état sur cette génération perdue des écrivains à Paris. Vous l'avez sous-titré Exil et création littéraire. Qu'est-ce que l'exil rajoute à ces écrivains-là? Le fait d'être justement hors de chez soi.
Alors, il y a une thématique continue chez ces écrivains, bon, chez les plus jeunes, qui est nous ne pouvons pas créer aux États-Unis. Pour des raisons culturelles, pour des raisons morales, à cause du puritanisme, à cause de l'ignorance artistique ou esthétique. Donc, nous allons ailleurs pour pouvoir créer. Bien évidemment, l'exil en lui-même ne suscite pas nécessairement la création. C'est pourquoi tous ces écrivains qui viennent à Paris débutants ont une vocation littéraire qui a commencé aux États-Unis. Paris devient simplement le lieu d'affirmation de cette vocation, de son développement, une espèce d'éducation littéraire que ces écrivains élaborent eux-mêmes.
Il leur a fallu quand même partir et
bien
se
sûr,
décaler.
Bien sûr.
Merci beaucoup Jean Bessière. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous êtes un théoricien du roman, notamment contemporain. On vous doit les livres Questionner le roman, quelques voix au-delà des théories du roman au PUF en 2012. Également Inactualité et originalité de la littérature française contemporaine 1970-2013 chez Honoré Champion en 2014. C'était La Compagnie des Auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travagli, Chanel Garance Mazelier, Ludovic Auger. Demain, vous retrouverez La Compagnie des Poètes par Manon Farine. Et nous, on se dit à lundi avec une semaine qui sera consacrée à deux grandes écrivaines italiennes, Elsa Morante et Goliarda Sapienza. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie et c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous. Antoine Aymaz est mort ce dimanche 3 mars. On trouvera nombreux hommages sur le site Poésie Bao, n'oublions pas. Aymaz faisait partie de ces voix chères qui fondent leur poésie sur une réflexion ouverte, assumée, les mains dans le cambouis, c'est l'un de ses titres. Un regard critique, ça se perd, et nous lui devons de ne pas nous perdre en éloge, plutôt l'écouter. Ce monde est sale de bêtises, d'injustice et de violence. À mon avis, le poète ne doit pas répondre par une salve de rêves ou un enchantement de langue. Il n'y a pas à oublier, fuir ou se divertir. Il faut écrire avec ceux qui se taisent ou qui sont réduits au silence. J'écris donc à partir de ce qui reste vivant dans la défaite et le futur comme fermé. Cette citation, nous l'avons trouvée sur le site remu.net. Poésie qui vient du livre « Limite » chez Tarabuste. On va vers ce qui s'en va. Dès lors, autant aller le plus lent possible. Même quand la barque corps ne porte plus que mal, et voir plus loin, on ne sait pas. Après, c'est bien pour ça qu'on va tranquille. Autre poème. Se détacher, aller plus loin, même si le corps peine à gravir, aller plus loin, encore, ou bien s'éclot, même dans les mots. Ce qui importe, dit Antoine Aymaz dans Cambouis, ce qui importe, c'est pas la figure sonore, allitération, écho, assonance, c'est son effet sur le rythme, le rebond qu'elle provoque dans le texte. La figure en soi, on s'en fiche. On ne veut récupérer en elle que sa force motrice propulsive. Là encore, il faut tisser de l'invisible, sans pour autant produire du mystère. Plainte inutile. On ne s'est pas encore assez habitué à vieillir. Simplement, devoir laisser, abandonner, lâcher, on a du mal. Alors, pourquoi encore écrire ? Si tout doit retourner à une terre battue, un petit feu de langue, au moins pouvoir marcher et se chauffer un peu. Je veux un poème qui parle maintenant, dans ma vie maintenant. Qu'ai-je à faire d'un arrêt sur beauté, d'une poésie de gisant ? Je ne m'explique pas ce besoin de respirer davantage dans une page, et je sais l'écueil d'une poésie coup de poing ou tract. Mais il y a bien cette demande première au poète. Réponds. Qu'as-tu à dire derrière ton bruit pétroleux de vocables ? Qu'as-tu à dire de vif, de pressant, qui me ferait respirer mieux, moi, lecteur ? Je bute sur cette question pour pas mal de livres, même si je peux en mesurer l'intelligence, l'intégrité, la profondeur. Petit poème. Cela ne porte plus. Faudrait aller plus vite. Plus juste. Limite du corps.
Jacques Bonafé, merci pour cet hommage à Antoine Aymaz, poète et auteur d'études sur la poésie, disparu le 3 mars dernier.